c'est le jeu, quand on sort l'autre.
السلام عليكم، راكم مع جماعة الحراقة هنا في إذاعة كالير.
ليميسيو حراقة، لا فوا دي سان فوا، دي زيشوي دو لا في. إل في أبل على لا رو كي لا انتربيل.
إي فو زالي فو ريغالي افيك فو ميكرو تروتوار.
إي لا كرونيك
دو روني نابا.
سيت اون روي دو بريس حلال سور دي سوجي حرام ولا لازم.
نوبليي با فو زيت افيك لي حراقة دو مارساي باخير الحراقة.
ليميسيون فار دو راديو كالير. Tous les jeudis
de 16 à 18 heures, mais ça à la Rabia hatta saa 6h. Bonjour, salam, azul fellaoun marra, aitmatin, aitmatin. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. L'émission Haraga du jeudi 13 février 2025 et Idir sont heureux d'être parmi vous. Comme chaque dimanche à Marseille, nous couvrons la manif pro-palestinienne. Les deux thèmes d'aujourd'hui. La couverture de notre reporter Sam, en provenance plutôt de Paris. L'analyste géopolitique Bernard Genet, il nous parle de Gaza et Trump. Et nous terminons avec des documentaires, des entretiens et des portraits. N'oubliez pas que vous êtes sur Radio Galère et dans l'émission Haraga, réalisation de Idir. Allez, on y go pour deux heures, non-stop. À tout à l'heure. Bonjour Samuel.
Bonjour, comment allez-vous?
Alors, vous avez fait le voyage à Paris. Expliquez-nous pourquoi.
Donc c'était pour défendre la cause de Ibrahim Abdallah, parce que moi je suis français, je suis pas un larbin en fait de la politique américaine, et que si l'Amérique me dit lui il doit rester en prison, je t'obéis pas quoi. Parce que bah voilà, je suis un pays indépendant normalement, mais bon, la France ils aiment bien donner des leçons aux autres, mais ils savent pas regarder dans leur précaré.
Alors, comment ça s'est passé le voyage, tout ça?
Ah déjà rien que le voyage, bah quand on vient de Marseille, c'est une famille quoi. C'est ça qui est génial, c'est que on est tous en fait avec des horizons, des classes sociales et des tranches d'âge différentes. Mais et c'est ça un truc que j'aime vraiment bien, c'est qu'il y a toujours un peu les anciens protecteurs qui sont là pour faire en sorte que tout aille bien pour tout le monde. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment... Ça reconstitue la vraie notion de famille. Ce n'est pas une notion de sanguinité, mais de valeur et de savoir se tenir les uns. Donc déjà, rien que le voyage, bah, cette fois-ci, c'était en TGV. C'était juste cool et classe. Il n'y avait pas de voiture-bar. Mais bon, il y avait quelquefois des parents qui étaient avec leurs enfants, qui avaient soif. Et bon, bah, avec les groupes avec lesquels on était tous équipés d'eau, de ce qu'il faut pour pouvoir tendre la main aux autres, quoi. Donc déjà, voilà, on arrive à Paris, c'était la course, les montées, descendre les escaliers, les Marseillais, bah, c'est là où tu sens...
Vous étiez combien de...
Alors, on était plusieurs groupes, parce qu'il y en a qui étaient venus plus tôt, il y a eu deux trains. On n'était pas loin d'une centaine de Marseille, quoi. Et de différentes factions, parce qu'il y en a qui sont venus en voiture, il y en a qui sont venus en train, et il y en a qui étaient déjà là les jours d'avant, parce que c'est le début des vacances, avec les tournées, voilà. Et ce qui était marrant, c'était qu'il y avait plein de femmes qui sont un peu âgées, qui ont quelquefois un peu des difficultés, et puis à Paris, il faut marcher, monter, leur premier souci, mais comment tu fais quand t'es en fauteuil roulant? Voilà, c'est les petites remarques où tu te dis « Ah tiens, les gens, ils pensent aux autres, quoi, ils font attention aux autres. » Ça, c'est des notions importantes, je trouve. Et on arrive à Paris, on se regroupe, on arrive à manger. C'est un peu la course, mais bon, tout se passe bien, calmement, avec la bonne humeur. On arrive sur le lieu. Bon, bah déjà, c'était pas vraiment Place de la République, c'était à côté, parce qu'il ne faut pas gêner la circulation et le consumérisme. Après, il y avait déjà un mec qui est passé en 4x4 qui a commencé à vouloir nous insulter, de traiter de Hamas. On lui souriait, moi je dansais. Et, voilà, je me moquais un peu de lui, quoi. Et il était en train de hurler, dire des gros mots. Bon, il se rendait plus ridicule qu'autre chose, quoi. Puis bah, ça unissait les différents groupes parce que ça venait de toute la France. Mais vraiment toute la France. Il y avait une nana qui était descendue de Savoie en voiture et tout ça. Et après, bah, la marche a commencé, rencontre avec les différents groupes LGBT, les féministes qui étaient en forte délégation parce que c'était aussi le week-end de... Enfin, le moment où on autorise d'avoir une reconnaissance des droits des femmes alors que ça devrait être toute la vie, quoi, parce que bah, c'est la moitié de nos cellules. Hein. Voilà, on n'existe pas. Enfin, voilà, les hommes et les femmes, c'est des mammifères. À un moment, il faut se respecter, quoi. Bref, et ce qui était hallucinant, enfin là où voilà, tu vois que les cycles, ça se répète pas, ça tourne pas en rond. Tu sens que les gens, en fait, ils sont, ça fait pas mal d'années là que je sens que dans tous les courants gauche, alternatifs, anarchistes, extrême gauche, communistes, ça bouge, quoi. Là, il y a des réunions en fait, différents groupuscules communistes, les féministes. Bon, bah, j'ai porté quelquefois leur badge parce que bah, le temps que l'autre prenne des photos, on s'entraide et les messages étaient forts, c'est d'avoir de l'argent pour la santé et pas pour les armes, quoi. Donc il y avait cette clarification qui est importante à affirmer aussi. Parce que bon, bah, c'est pas juste être contre un génocide, être contre des massacres, être contre la colonisation. Là, c'était mieux affirmer les messages par rapport à contre le colonialisme. Il n'y avait pas encore un message très bien construit, je trouve, contre l'impérialisme et les pouvoirs dominants qui écrasent et qui dit qu'on peut déplacer des peuples comme ça. Donc moi je pense qu'il y a encore un travail à faire, mais ça c'est voilà, ça vient avec la maturité des mouvements, avec les échanges, et comme il y en a de plus en plus, et que les gens ils se parlent vraiment avec, de plus en plus avec le cœur ouvert, parce que bah, l'épreuve en fait de faire des manifestations pendant un an contre des génocides, ça fait tomber les barrières entre les gens, quoi. Et c'est respecter en fait tous les enfants qui sont morts, qui sont tombés, en justement sachant se parler, faisant tomber les barrières de nos a priori pour voir en fait que on a des valeurs communes et que bah, il faut réussir à construire un peuple commun avec la richesse de sa différence, parce qu'on nous a tellement menottés, communautarisés, et que du coup. Bah voilà, on est dispersés et je le remarque beaucoup en fait vraiment chez les communistes, ce besoin de, on a chacun nos identités propres et on s'enrichit en fait de nos expériences, de nos savoir-faire, donc on apprend à s'écouter pour déjà se transmettre du savoir. Donc tout ça c'était vraiment super positif. Après ouais, c'est vrai que le slogan c'était pas top, et puis bon bah à la fin de la manif, une fois que tous les slogans étaient finis, le temps qu'on ait notre train de retour, on avait un peu de temps, au lieu de traîner dans les bars ou faire lèche-vitrine, quoi. Et ben, on s'est décidé, allez, on va voir la mosquée de Paris. Voilà, moi, c'est vrai que j'avais pas fait, je connaissais pas, voilà. Et l'architecture, c'est quand même quelque chose qui m'intéresse.
La mosquée de Paris, je crois qu'elle a été construite en 1921, non?
Ouais, et ça se voit vraiment, en fait, dans l'architecture, dans tous les décors en bois peint, les techniques aussi, en fait, de moulage... En terre cuite. Voilà. Au point de vue de l'architecture, il y a vraiment c'est un lieu qui peut être inspirant quand tu marches dedans. Enfin, vraiment, il y a un truc assez apaisant, quoi, de toute façon. Alors, je ne suis pas croyant, mais...
Vous avez vu le recteur de la mosquée de Paris?
Non, voilà. Vous pouvez
aller le chercher, parce que...
Non, moi, je respecte plus le croyant, lambda, que les grands chefs, les soi-dit grandes élites. Quand on voit le monde à quoi ils ressemblent, désolé, les gars, mais il faut vous remettre en question, quoi, parce que bah, les peuples sont désunis. Il y a la guerre partout, la souffrance elle est partout. Voilà, moi je trouvais ça choquant que devant la mosquée il y ait une femme qui me fasse la mendicité. Je trouvais ça merde.
Dans toutes les mosquées, les églises ici à Marseille,
ouais.
Dans les églises, devant les églises, vous ne voyez pas.
Ouais, ouais.
Et ben il y a toujours les mendiants. Hein.
Ouais, ouais, mais par exemple là, les mendiants devant les églises, ben, les églises c'est des trucs à touristes maintenant. Et les mendiants c'est plutôt généralement les manouches, quoi. Hein. Et voilà, parce que bah, c'est aussi des vrais croyants aussi. Hein. Enfin, la croyance religieuse manouche, parce que c'est quelque chose que je respecte.
Ah bah oui.
Alors que moi, je suis pas croyant, mais c'est le fait... moi, c'est souvent le principe de porter des valeurs.
À titre touristique.
Non. Connaître la culture des autres. Comprendre le mode de fonctionnement des autres.
Ça fait plaisir d'entendre quelqu'un dire connaître les cultures des autres.
Bah oui, mais quand je dis en fait que la différence est une richesse, il faut apprendre à la décoder. Parce que justement, c'est vraiment un truc que je pense que j'ai pu vérifier. Pour moi, la famille du monde, elle se retrouve dans la cuisine et que ça va bien au-delà, quoi. Et que non, quand les gens ils vont te dire leur phrase à leur façon, il faut apprendre à décoder en fait les mots pour entendre la racine de l'émotion qu'elle veut transmettre la personne et de la valeur qu'elle porte, quoi. Voilà, c'est tout, c'est avec cette simple humilité-là. Et moi, ce qui était impressionnant, que j'ai beaucoup apprécié quand on était à la mosquée, c'est le respect qu'on avait tous les uns envers les autres. Quelquefois, qui se passe juste par un regard, quoi. Tu sais que, voilà, moi, naturellement, je me suis retrouvé presque à aller pour faire la prière. Parce qu'il y avait, cette fluidité de bienveillance, de respect les uns envers les autres. Enfin, après, moi, je suis dans un lieu religieux. Quel que soit le lieu religieux, j'essaye de marquer un certain respect pour...
Si on revient à la mosquée de Paris, ouais. À l'époque, c'était la mosquée de Paris, et maintenant, c'est la mosquée. Elle a été offerte aux tirailleurs algériens. C'est pour ça qu'ils ont construit la mosquée de Paris en 1926.
D'accord.
C'était aux tirailleurs de 14-18.
C'était aux rescapés 14-18.
Pour dire, aux musulmans en général, et en particulier c'est les Algériens.
Hein, ouais, mais là, c'était là où c'était un peu frustrant pour moi, c'est que je voulais prendre le temps, en fait, de lire, en fait, parce qu'il y a une salle au fond, ça fait comme dans les églises, une petite église. C'est marrant, moi, j'étais surpris avec le jardin d'Éden avant d'arriver dans la grande salle et tout. Et ce mélange, en fait, qu'il y avait entre le côté architecture arabe et asiatique, quoi. Enfin, moi, je le voyais de manière criante, quoi. C'est ça que moi je trouve intéressant en fait à travers les cultures, c'est comment ça fait voyager en fait les savoirs, quoi. C'est vraiment là, enfin moi c'est des premières études que j'avais fait. C'est...
L'architecture musulmane c'est la plus belle au monde, hein. On n'a qu'à voir l'Andalousie, ce qu'ils ont laissé les musulmans là-bas.
La taille en dentelle,
Cordoba.
La taille de pierre en dentelle, ça c'est un truc, c'est magnifique. Mais pour moi il n'y a jamais un plus bel, c'est des choses différentes. L'architecture asiatique thaïlandaise avec les toits en un tiers, trois tiers là, c'est ultra puissant parce que c'est très inspiré de la nature. Mais en fait dans toutes les civilisations quand elles sont développées, affirmées et que ils ont intégré les notions mathématiques et de la nature en fait dans la codification architecturale, c'est magnifique, quoi. Enfin, c'est un vrai truc intéressant, mais c'est pas un truc de touriste. Là, ça demande de connaître l'histoire, comment c'est là où tu vois la taille de pierre en dentelle à Véroès et tout ce bain culturel qu'il y a eu à travers le temps. C'était il y a une vraie transmission technique. Enfin, c'est là où c'est puissant en fait. C'est ce qu'il y a de plus beau en fait dans l'échange. C'est qu'on s'apprenne des choses. Comme là, tout à l'heure, en fait, moi, je voulais aller rejoindre les agriculteurs parce qu'on a un jardin à Marseille et on voudrait essayer de faire vraiment des bons cours pour que quand les gamins, là, on a installé déjà 12 petits carrés de culture pour les enfants dans les écoles pour avoir un vrai projet pédagogique qui donne l'amour de la nature aux enfants. Et que je puisse m'inspirer aussi du savoir-faire des Palestiniens. Et remettre en fait au goût du jour le savoir ancestral, l'autonomie alimentaire. Aujourd'hui en France, on n'a pas d'autonomie alimentaire. Si on est enfermé, on a 3 jours, on a 4 masques et des produits à la con. Et mettez avec ça, vous irez mieux. Enfin, tout ce délire-là. Et voilà, que c'est là où... Enfin, je ne sais pas comment trop... Je me suis un peu emmêlé les pinceaux là à la fin. Mais ouais, la beauté de l'échange culturel, c'est tellement primordial. Parce que j'étais avec des femmes croyantes, non croyantes. Et c'est ça la vie. Il y avait vraiment, enfin, un moment, il n'y a plus des masques. On est là pour faire attention les uns et les autres, c'est tout, quoi. Et rien que déjà ça se salue énormément. Et ouais, les femmes, comme d'hab, de Marseille, c'était grave classe, quoi. Ce qui n'a rien à voir avec les préjugés qu'on entend dans les médias d'une autre planète, là. Je ne sais pas d'où ils viennent. Parce que ça, c'est vraiment le problème. Hein. tous les gens, parce qu'on est tous prisonniers des habitudes et que bah, je vois, il y a quelquefois des gens en fait, le carrefour est là à côté de chez moi, alors ils peuvent massacrer des enfants, mais bon, je suis quand même au carrefour, est-ce que je vais pas changer mes habitudes? Et bah si, pour faire évoluer son esprit, la meilleure technique c'est de changer ses habitudes. Et c'était là le plus bel échange que j'avais avec tous les gens en fait du groupe de Marseille, de quelques classes et tranches d'âge que ce soit. Tous constatent qu'avec le boycott qu'ils petit à petit mettent en place, avec le boycott chenille, c'est le site internet qu'on trouve qui est le mieux fait, parce que ils expliquent pourquoi il faut boycotter, quelles ont été les actions qu'ont fait telle ou telle marque, qu'est-ce qu'il y a comme produit alternatif. Mais bon, par exemple, sur le Coca-Cola, ils ne parlent pas du Palestine, du Coca Palestine. Mais voilà, c'est un site quand même qui est bien fait, parce que ça permet de se rendre compte de l'ampleur en fait des actionnaires qui sont partout, quoi.
Et qu'est-ce qu'il y avait comme slogan de part et d'autre
Moi, je suis un vieux, alors c'est vrai que je dis facilement Vietnam, Algérie, Palestine vaincra aussi. Et eux, ils découpaient d'une manière, c'était incompréhensible. Après, moi, j'ai vraiment du mal avec Free Palestine, parce que moi, je suis pour le boycott, en fait, d'Israël, mais des produits US aussi, puisqu'ils sont complices. Donc, à un moment, il faut savoir être un peu cohérent.
Les produits marocains aussi, attention. Hein.
Et les produits marocains qui vont avec, bien sûr.
Les produits marocains, en sens propre. Hein.
Oui, qui sont aussi largement bien complices.
Ils sont complètement avec l'impérialisme, le sionisme.
Hein. Le Maroc, c'est aussi le premier pays qui a reconnu les États-Unis.
Tous les sionistes.
Voilà. Non.
Le roi, hein. Et pourtant, le roi, en fait, pas le peuple marocain, le roi,
voilà.
Bien précisé.
Voilà, ouais, parce que depuis un an, combien de fois j'en ai vu des Marocains,
des Libyens... Ils se font tabasser au Maroc, ils se font massacrer, c'est vraiment douloureux pour le peuple marocain, hein, d'avoir un roi sanguinaire...
Ouais. Pourtant, en fait, on aurait pu croire qu'avec les tremblements de terre, ça aurait un peu fait réfléchir les gens, mais non... Vraiment, le riche est prisonnier de sa caste, en fait. Et en fait, il faut les aider, c'est eux les assistés qu'il faut soigner, c'est eux les vrais handicapés. Parce que ils possèdent tellement de choses qu'ils n'ont en fait pas la connaissance de la réalité physique de l'être humain, de pouvoir manger. Ils peuvent faire le ramadan, en fait, le roi du Maroc, mais c'est un exotisme, en fait.
Le ramadan, il fait l'Aïd,
ce que c'est d'avoir faim, de souffrir.
Toutes les fêtes religieuses. Pas de problème, mais le problème, c'est que lui-même, c'est un problème.
Ouais, c'est clair. Et puis, ça révèle aussi vraiment le facteur, si les gens... Enfin, moi, de toutes les expériences de la vie, c'est la plus dure que j'ai retenue, c'est... si t'as pas eu des épreuves, des souffrances dans la vie, eh ben, les gens, en fait, ils peuvent pas avoir, en fait, d'empathie. Et c'est vraiment eux qu'il faut aider, parce que... J'ai connu 2-3 personnes qui sont des exceptions, qui n'ont pas vécu d'épreuves et ont réussi à développer suffisamment d'empathie pour tendre la main à son prochain. Mais c'est pour ça que le travail des femmes qui balancent sur les viols, sur tous les problèmes de pédophilie que nos élites entretiennent si bien, c'est vachement important, parce que il y a un vrai travail d'éducation à permettre aux mecs de comprendre quelquefois comment en fait leurs gestes peuvent être dégueulasses, nuisibles, et que c'est inscrit dans une telle banalité.
Alors je voulais rectifier juste à mes collègues marocains, à mes frères, à mes amis que je connais beaucoup ici à Marseille, c'est que je ne parle pas que du Maroc, hein. L'Algérie, oui, c'est copie-collée marocain, parce qu'en Algérie, le peuple il souffre, on a un roi en Algérie,
oui.
Voilà, on a la même chose qu'au Maroc.
Ouais, et puis enfin, il ne faut vraiment pas mélanger en fait peuple et dirigeant, que ce soit en France, que ce soit au Maroc, en Libye, partout en fait, quoi. Parce que c'est très rare en fait qu'il y ait un vrai représentant du peuple à la tête d'un État. C'est une telle charge intellectuelle, humaine, il faut vraiment être super fort pour avoir les capacités d'être à la fine écoute en fait du timbre du peuple. Mais si, depuis un an et demi, combien de fois en fait on envoie des Marocains, parce qu'on se parle justement, alors toi t'es où, d'où, tac tac tac, voilà, mais c'est plus dans l'information, sachons d'où on vient, mais on est ensemble. Et c'est la seule chose qui compte en fait, dans l'action, on est contre les génocides, ok, voilà, ça c'est une vraie valeur de base humaniste, et à partir de là on peut développer mais énormément de choses, quoi. En fin de compte, on peut être d'accord sur plein de choses, plein. Et vivre dans la vraie laïcité, dans la richesse de nos différences. Parce que bon, bah, en même temps, les religieux sont que même pas 40% de la population, 60% ne sont pas croyants. Et donc, il faut réussir à articuler ça de sorte à pas fermer, s'enfermer dans des communautés. Parce que c'est souvent ça qui fait peur avec les manifestations palestines. C'est pour ça que moi, je vois...
Malheureusement, le communautarisme ici en France, il a dépassé les frontières.
Bah non, mais en fait, c'est normal qu'on soit en fait dans du communautarisme. Ça fait tellement longtemps, en fait, qu'on reconnaît pas. Tu vois, quand je te disais un coup, les premiers à avoir utilisé, en fait, les gaz, c'était pas les Allemands, c'était les Français en Algérie. Personne ne connaît ces histoires. Ici, du côté, je suis un des rares Français classiques, on va dire que...
Moi, je réponds à toutes les questions. Moi, c'est une question. Quand on parle des gaz utilisés des Français en Algérie, certes, quand on parle des bombes atomiques, des essais nucléaires au sud à Reagan, ils ont foutu la main. Non, ça existe, c'est pire. Ils ont fait un massacre, les Français, l'époque de Gaulle. Mais le problème, c'est qu'après l'indépendance, quand il y a eu la guerre contre les civils en Algérie en 90, on a envoyé les islamistes à Reagan. On leur a construit des prisons à Reagan.
Dans le truc. Malade.
Malade, exactement.
Ouais, non, mais c'est une forme de génocide latent fait dans le silence. Voilà. Très, très, très français. De toute façon, c'est
pourtant,
toujours.
Samuel, on a dit tout à l'heure, on parle pas politique, mais bon.
Mais non, mais en fait, c'est se passer les informations. En fait, c'est vraiment ce vrai principe-là. On se passe les informations, on ne se juge pas, on s'apprécie. Et du coup, ça nous fait réfléchir pour faire évoluer sa pensée. Comme quand j'entends toutes ces informations, moi j'ai défendu des femmes battues ou violées, etc. quoi. Mais j'ai besoin quelquefois aussi en fait, d'entendre des choses pour réaliser la dévastation que ça fait chez les êtres. Quand tu as été abusé, que ce soit enfant, tu es marqué à vie, hein, de toute façon ça c'est mort. Hein. Il y a beaucoup de gens à droite, ils ont pas encore du mal à comprendre ça. Je le vois, hein, j'ai réagi à deux, trois personnes qui réagissaient de droite sur les affaires Bayrou et la pédo. Mais tu vois leur niveau d'ignorance et que ils ont du mal à reconnaître que il y en a eu des centaines de milliers de victimes quoi en France. Là rien qu'avec un prêtre, t'avais 112 gamins minimum avec ceux qui n'arrivent pas à assumer et à porter le combat.
Parce qu'ils font pas comme les musulmans, les imams il faut qu'ils soient mariés.
Voilà, on arrive au nerf de la guerre. D'où il vient ce droit, en fait, qu'il ne fallait pas un prêtre...
Tu lâches un âne dans une église, ils vont le péter.
Oh mon Dieu, Marie-Joseph. Non, mais... qu'est-ce que tu veux. Voilà, moi, je ne sais pas d'où il vient, en fait, ce... Je l'avais entendu une fois, mais... Je sais plus d'où ça vient en fait. C'est arrivé tard en fait. Ça doit être encore une traduction de Paul ou de je sais pas quoi, justement, qui avait des problèmes avec la sexualité. Et non, c'est pas parce que justement, c'est être dans l'amour de Dieu en fait, d'aimer l'autre, d'arrondir ses angles, de savoir composer la vie avec l'autre. Donc oui, ça c'est un truc qu'il faut faire tomber chez les prêtres, ça n'a pas de sens quoi. C'est pas parce que t'as pas de rapport avec une femme de manière consentante que t'es pas un bon croyant. Tout ça c'est toujours ces histoires de forme et de manière, c'est le vrai problème. C'est pas parce que t'as des bonnes manières que t'es quelqu'un de bon. Voilà, on va peut-être s'arrêter, non ?
Oui,
Parce que ce qui était marrant aussi à Paris, c'était tous les syndicalistes qui étaient là. Et il y avait notamment Concentrix. Ça fait bientôt un an, en fait, qu'ils sont en grève. Parce que tu peux travailler 20 ans là-bas et t'es à peine 4 euros plus cher, en fait, que le SMIC. Avec 20 ans d'ancienneté. Enfin, et, voilà, les gens sont tellement oppressés de toutes parts. Et ils ont peur, en fait, bien souvent, en fait, que vous parlez de politique des Palestiniens, donc du coup, vous parlez. Il y a un vrai truc, phénomène de jalousie, bête et stupide.
Ça arrange la France, hein. C'était notre correspondant Samuel. Vous le retrouvez chaque jeudi sur les Antoras de Galère, dans l'émission
Arraga.
Merci, Samuel.
Merci à toi.
Allez, juste après cette musique composée par Elton John à Single Man, nous donnons la parole à Bernard Jeunet.
Thank you. Alors Bernard, bonjour.
Bonjour, Kabak.
De quoi on va parler aujourd'hui?
Ah, on peut parler du dernier grand clown en exercice. Alors on avait déjà des clowns, Zelensky, d'autres. Mais là, maintenant, Trump est en train de se mettre en lice pour avoir le prix Nobel de la clownerie ou le prix je ne sais pas quoi de la clownerie. Parce que ce qu'il a fait par rapport à Gaza, c'est un numéro de clownerie. En même temps sinistre, mais d'un niveau jamais imaginable. Oser faire ce qu'il a fait, aller dire qu'il allait faire une côte d'azur sur les cadavres des Palestiniens et qu'il allait trouver de l'argent, parce que j'ai bien écouté sa version anglaise, il a dit « il faut 300 milliards, mais je vais les trouver, je ne les ai pas ». C'est-à-dire c'est un profiteur. Moi, je suis le promoteur. Investissez chez moi votre fric et moi, je vous livre la côte d'azur là. Donc c'est carrément un voyou à la tête d'un État. Je le dis d'autant plus fort qu'il a fait, et on a des preuves maintenant en reportant sur le passé, il a fait exactement la même chose à Panama. Il avait monté un projet hospitalier avec de l'argent des autres, mais quand on cherche de l'argent des autres à Panama, qu'est-ce que c'est l'argent qu'on peut trouver dans la rue à Panama? C'est de l'argent de la cocaïne. C'est rien d'autre. C'est rien d'autre.
Hein. L'Équateur aussi.
Ouais, on est, voilà. Voilà. Alors, c'est ça le passé de ce monsieur. Donc, il arrive pour promoteur. Je vais vendre à des nigauds qui vont peut-être acheter un appartement. Et je m'assois sur les cadavres des Palestiniens. Et je leur dis, partez. Et de la même main, pendant que je dis ça, cette pitrerie, cette clownerie, dans le même temps, je signe un papier en envoyant à nouveau une quantité de bombes considérables à Netanyahou. C'est-à-dire, d'un côté, je dis, on fait la Côte d'Azur, hein, mais tuez tous ceux qui restent. C'est ça l'idée. Tuez tous ceux. Et je vous donne les armes les plus graves, les plus dangereuses, les bombes perforantes, les bombes de 2 tonnes, etc. Tuez les derniers Palestiniens. Ça, c'est un numéro de clownerie, quand on le regarde les deux côtés, qui est absolument insupportable. Ce monsieur qui vante, effectivement, ça va être très très beau, la côte, la Riviera Gazaoui, et qui, d'un autre côté, signe pour envoyer toutes les bombes à Netanyahou pour tuer les derniers survivants. Donc, au programme, 1,5 million de meurtres.
Oui, mais Bernard, il ne faut pas être con. L'argent, c'est les pays du Golfe qui vont leur donner.
Probablement, probablement. Alors, ils ne le disent pas, parce qu'ils ne vont pas se vanter. Et il y a un moment où je parle, et j'espère que leur population, aussi peu libre qu'elle soit de sa parole, finira par dire, dites, vous avez beau dire que vous êtes solidaire, que vous voulez un État palestinien, mais ce que vous faites, c'est exactement le contraire. Alors, je n'ai pas trop d'espoir sur les monarchies. Ce sont des monarques qui peuvent effectivement découper un opposant à la tronçonneuse dans un consulat. J'ai pas trop d'espoir de ce côté-là. Là où j'ai quand même un peu d'espoir, c'est que dans les 110 millions d'Égyptiens qui sont tenus sous le couvercle de Al-Sisi pour l'instant, il y en aura quand même suffisamment qui diront « notre pays ne peut pas faire ça ». Et le fait qu'il ait quand même dit « on ne veut pas accueillir les Palestiniens ici parce que les accueillir, ça veut dire quoi, les achats, etc. » Ça veut dire qu'il est conscient de la pression populaire, qui tient par ailleurs sous sa coupe, parce qu'il n'y a eu aucune manifestation de soutien aux Palestiniens depuis 2 ans en Égypte. Elles sont interdites. Mais là, il doit sentir que ça bouillonne, que la population va lui reprocher de ne pas avoir bien aidé les Palestiniens et qu'il faut qu'il lâche un petit peu de lest.
Mais en Égypte, tous les régimes qui sont passés, à part Nasser,
c'est tous des... Mais tous, ils ont tous joué double jeu, voilà. Alors, Moubarak, tous ils ont joué double jeu parce qu'ils étaient dépendants des États-Unis. Les États-Unis disaient, je t'apporte de quoi faire du pain, tu te tais. C'était ça le fond du problème. Hein. Bon. Et tu gardes le canal de Suez, ça profite à tout le monde, y compris à nous. Mais surtout, je te donne à manger. Et si tu n'as pas à manger, s'il n'y a pas de pain dans les boulangeries en Égypte, le gouvernement il saute dans la semaine. Hein. Donc, mais ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est plus les États-Unis qui fournissent le blé, c'est la Russie. Et donc la Russie peut dire, je continue à donner le blé, je négocie pas là-dessus. Mais il faut être correct dans la politique internationale. Donc, d'une certaine façon, Al-Sisi ne peut plus dire « je fais ce que je veux, je suis hypocrite, je parle un double langage » parce qu'en fait, il sait qu'il a quelqu'un qui le tient par la nourriture. Ça, c'est une nouveauté importante. Alors, il y a les Jordaniens. j'en parle à la limite que pour mémoire, c'est un régime qui a été mis en place, c'est un État qui a été découpé au crayon et à l'équerre par la motarde, par le département, enfin le ministère des Affaires étrangères britannique. On a mis là un hachémite parce qu'on l'a trouvé, on l'a pris ailleurs.
On a mis un café à la tête.
Voilà. Bon. Oui, on lui a dit, on te donne pas ça, mais on te donne ce bout. Chacun a eu le sien et il est content. Mais en fait, c'est une province des États-Unis. Il ne faut pas en attendre plus. Alors avec quand même un petit danger politique à l'intérieur de la Jordanie, c'est qu'une bonne moitié de sa population est d'origine palestinienne. Alors elle est tenue sous une poigne de fer, elle est surveillée, mais un jour ça pourrait craquer.
Depuis le septembre noir, ils n'arrivent plus à bouger les Palestiniens.
Voilà, mais ils sont, voilà. Mais le contexte régional se transformant, peut-être il y a un espoir de ce côté-là, j'espère. Bon, donc c'est fragile, mais c'est encore bien tenu par la monarchie et par la CIA, en gros. C'est ça qui fonctionne. Bon, qui donne tout, l'argent, les armes, les avions, enfin voilà, et qui entraîne les soldats. Bon, donc, parlons pas. Alors, il reste les autres pays arabes. Alors, un mot quand même sur la Syrie. Sur la Syrie, il n'y a plus de gouvernement, et on sait que c'était quand même le seul gouvernement qui était, depuis le début et sans jamais changer de position, favorable aux Palestiniens. Bon, il n'y est plus. Mais qui a la place? En fait, c'est là qu'il y a aussi un énorme trou dans le dispositif, c'est-à-dire que ceux qui ont lancé l'opération de renversement du régime de Bachar el-Assad croyaient qu'ils allaient mettre à la place une équipe qui allait tout contrôler. C'est pas du tout le cas. Il n'y a pas. Alors il y a une espèce de gouvernement à Damas, on fait croire qu'il existe, on le reçoit en Turquie, on le reçoit là, on lui envoie des ministres européens et tout. Et en fait, il compte.
J'ai l'impression qu'elle a été reçue en Algérie aussi.
Aussi. Ah, mais ça m'étonne pas. Voilà. Mais en fait, on fait comme s'il existait. En fait, il contrôle une bande de terre entre, en gros, Alep et Damas, un peu la côte avec des difficultés, la côte autour de la Tartous et Calquier. Le Tartous est l'attaqué. Et puis en fait, là où il y a les Israéliens, ils ne contrôlent rien.
Et la place des Kurdes
Alors la place des Kurdes. Alors les Kurdes, je verse une larme sur les Kurdes, j'allais dire. Non. Les Kurdes ont toujours eu de la peine à trouver le bon allié. Et ils se sont jetés dans les mains des États-Unis. Les Turcs sont là en attendant, parce que les Turcs veulent éliminer les Kurdes tous, un par un, mais dans la mesure où les États-Unis les protégeaient, ils ne pouvaient pas le faire. Apparemment, les États-Unis vont se retirer un petit peu, garder peut-être des intérêts pétroliers dans le nord-est de la Syrie, et ils vont laisser les Kurdes à la merci de Erdogan. Et là, on peut compter, ça sera comme Gaza, ça sera épouvantable.
Donc il n'y a plus Salah ad-Din.
Voilà, non, il n'y a plus rien. Hein. Donc, alors, ce pays n'existe plus. Il a un gouvernement qui gouverne une partie, mais qui ne tient pas debout. Et je ne sais même pas si ce gouvernement est respecté par la population. Je crois qu'il est craint par une grande partie de la population. Et je ne sais même pas si les gens qui sont de son côté, qui peuvent. Alors, dans le gouvernement de M. Al-Shahara, il y a des Tadjiks, il y a des Ouzbeks, il y a des Ouïghours, il y a n'importe quoi. Bon, et je pense que ces gens-là ne sont pas obéis par la population syrienne. Alors la population syrienne, pour l'instant, elle a peur, parce qu'ils sont dangereux, ils ont le sabre à la main ou le couteau à la main, je me tais, mais c'est pas des Syriens. Donc il y aura un rejet à un moment donné de ce pouvoir par la population syrienne de base, pas forcément pro-Assad, rien du tout, mais refus d'être occupé par des étrangers qui sont tous en plus des terroristes. Bon. Alors occupation par les sionistes, occupation par les terroristes, occupation par les Turcs qui n'aiment pas les Arabes, ça fait beaucoup.
Donc ce nouveau président de la Syrie, il tient une grenade dégoupillée.
Absolument, absolument. Et voilà, il ne sait pas, alors peut-être elle va se dégoupiller tout seul, il va sauter lui-même, il va la jeter sur quelqu'un de désespoir, mais enfin on a affaire à une espèce de vide politique qui est extrêmement dangereux, y compris pour lui, parce que je pense qu'il ne maîtrise rien. Et donc ça, et puis qu'il a un pays, ce pays, c'est pas son pays d'ailleurs, il a un pays qui est occupé par la Turquie, encore un peu les États-Unis pour une partie, Israël, et lui, il va. C'est un pays qui n'existe pas en ce moment, mais dont la population syrienne peut ressentir qu'il est occupé par des gens qui n'ont rien à y faire. Le Turc, c'est pas un Syrien. Israël, c'est pas des Syriens. Les Kurdes, il y a une partie, en gros, on comptait que sur les 20 et quelques millions de Kurdes qui existent en ce moment, il y avait 2 millions qui habitaient la Syrie.
Il y a 120 000 Algériens qui vivent là-bas.
possible aussi.
Oui. Ceux qui sont partis rejoindre l'émir Abdelkader.
Ah d'accord, donc voilà. Bon, donc il y a un peu de tout, mais les Syriens, les vrais Syriens, ceux qui sont nés là, qui ont grandi là et tout, qui étaient là, qu'ils étaient plus ou moins d'accord avec le régime de Bachar, peu importe, mais ils étaient chez eux. Là, ils sont totalement au point de puissance étrangère, et donc je pense que ça ne peut pas tenir. Ils sont occupés. Alors, la résistance à l'occupation, on le sait en France, on le sait ailleurs, ça prend toujours un certain temps, ça ne se fait pas en 24 heures, mais là, tous les éléments y sont. Je me demande même s'ils entendent ce que les milices de Al-Shahara, en quoi ils se parlent entre eux, je ne sais même pas s'ils arrivent à se parler, ou si on leur dit tirer dans le tas et c'est tout, parce que les Tadjiks, a priori, ils ne parlent pas arabe, ils parlent quelque chose qui ressemble au persan, les Ouzbeks non plus, donc quelle est la langue de commandement du régime Al-Shahara? J'en sais rien, peut-être qu'ils ne commandent rien en fait. Donc on a l'illusion dans les télévisions occidentales qu'ils commandent quelque chose parce que ça nous arrange pour l'instant en attendant de voir ce qui va se passer.
Peut-être qu'ils vont créer la Mésopotamie.
Oui, à recréer la Mésopotamie. Ah oui, mais les Irakiens ne se laisseront peut-être pas faire parce que les Irakiens...
Ils vont effacer l'ombre de...
Oui, c'est possible. C'est possible. Parce que, effectivement, c'est bien joli de dire on dissout le Baas syrien, on dissout le Parti communiste syrien et tout, on se fait plaisir, mais on dissout tous les organes politiques qui expriment la population de la Syrie. La population de la Syrie n'a plus aucun moyen d'expression. Alors, si c'est un Ouïghour qui parle, c'est un Tadjik qui parle, ben voilà, bon, c'est un occupant, c'est un étranger, et ça ne peut pas durer très très longtemps une situation comme ça. C'est intenable politiquement. Voilà, donc quelques données sur la situation. Donc, gros effondrement dans le ridicule sinistre de Donald Trump, ridicule sinistre, relayé par Netanyahou, qui est allé, alors on le voit sur les vidéos, tout content, ah, il a dit qu'il allait faire ça. En fait, est-ce que Netanyahou y croit tellement, je ne sais pas, mais il est content parce qu'il a reçu les bombes, il a reçu les obus, il va recevoir encore des avions, et Netanyahou, il n'y a que ça qui l'intéresse. L'autre fait son cinéma, mais lui, Netanyahou, il dit, bon, alors tu m'envoies combien de bombes, ça arrive quand, hein, et surtout, je ne paye rien, hein, merci camarade, hein, parce que c'est ça derrière, hein. On verra bien après. De toute façon, on lui a encore envoyé quelques milliards de dollars, le Congrès va les voter, etc. Donc, le soufflet, bon, j'appelle ça le soufflet Obama, le soufflet Trump, c'est comme un gâteau qui monte, et de jour en jour, de semaine en semaine, ce soufflet s'affaisse, parce que chaque fois qu'il intervient sur un sujet, le ridicule sort immédiatement. Après, il y a toujours quelqu'un qui répond, mais ça ne tient pas debout, c'est pas vrai, etc. Donc, la clownerie, c'est pour ça qu'il a dit, je fais tout en 60 jours, parce que je pense qu'au 61e jour, le monde entier rira. Alors, c'est un rire jaune, parce que quel mal il aura fait, mais... Qui pourra prendre au sérieux un président des États-Unis comme ça? Et donc, qui pourra prendre au sérieux les États-Unis avec lui? Parce qu'il enfonce son peuple. Parce que les 70 millions d'électeurs qu'il a eus, ils se trouvent ridiculisés aussi. Parce qu'ils ont cru peut-être en certains discours, en des blagues qu'il a racontées, en des excès de langage et tout. Make America, hein, je reprends le slogan, Make America Great Again. Alors, quand il disait ça, en fait, il ne se rendait pas compte qu'il était en train de crever sa tombe. C'est-à-dire que s'il faut rendre la mairie à nouveau grande, c'est qu'elle ne l'est plus. Et donc, en fait, il a signé la réalité. L'Amérique n'est plus grande, il faudrait qu'elle laisse le monde en paix. Et qu'elle se reconstruise elle-même, il y a énormément à faire dans les quartiers pauvres, chez les latinos, chez les noirs, chez les pauvres blancs et tout, il y a énormément de travail à faire.
Donc il faut appeler Abraham Lincoln.
Voilà, exactement. Alors je dis, monsieur Trump, mettez votre gouvernant d'abord au service de votre peuple. Regardez, il est dans la misère, la natalité baisse à défaut des immigrés, la mortalité infantile est à un niveau catastrophique par rapport à l'ensemble des pays développés. Il y a quantité de données comme ça. Vous avez un pays qui meurt sur pied, sauvez-le, au moins faites ça d'utile. Là, vous aurez dit, je peux essayer de rendre un peu de lustre à l'Amérique. Pour l'instant, ce que vous faites, c'est exactement le contraire. Vous êtes en train de tuer ce qui pouvait rester d'image positive. Et ce que je déplore, c'est qu'on ait encore des médias en France et en Europe qui continue à faire croire que c'est là qu'est la civilisation. La civilisation, elle n'y est plus. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de grands romanciers américains, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables de donner naissance à un nouveau Martin Luther King, mais ça veut dire qu'ils sont très très faibles et qu'ils n'ont pas de projet porteur pour la totalité de leur population et encore moins pour l'humanité entière. Qui va avoir aujourd'hui envie de dire on veut ressembler aux États-Unis ? Personne, c'est fini ça. Alors, après, chacun essaiera d'abord de trouver son modèle à lui, que ce soit un modèle à la chinoise, à la russe, à l'indonésienne, à la congolaise et tout, mais ça sera plus, c'est un modèle pour personne, c'est une énorme farce, et une énorme farce qui est triste à pleurer. Donc c'est terminé, mais ça prend un certain temps. L'écroulement n'est pas instantané, et on peut déplorer. Alors, il n'est pas instantané, et pendant ce temps-là, le sang coule à Gaza, le sang coule à Jénine, et c'est ça, parce que, je ne l'ai pas dit, mais en fait, le cessez-le-feu est un cessez-le-feu avec des pointillés. Il y a encore des jours où ils tirent, il y a encore des tirs, etc. Il y a encore des morts à Gaza. Bon. Et donc, on voit aussi ce qu'ils font des prisonniers quand on voit l'état de maigreur digne d'une image d'Auschwitz des prisonniers palestiniens qui sont libérés par Israël. On dit, mais il y a un problème, il y a un problème. C'est-à-dire, si c'est comme ça que vous traitez vos prisonniers, hein, vous êtes du même tonneau que ceux d'Auschwitz. Et ça, c'est dur à imaginer parce qu'on nous a tellement mis dans l'idée que Auschwitz c'était l'horreur absolue et que plus personne, je me souviens du slogan, plus jamais ça. Et en particulier, on ne pensait pas que des juifs seraient capables de faire la même chose. Ben, ces juifs-là, je dis ces juifs-là, ce qui ne veut pas dire du tout tous les juifs, loin s'en faut, ces juifs-là, enfin, ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont les fous d'Israël à la tête d'Israël, ces juifs-là font exactement la même chose. Donc, eh bien, c'est une erreur, et c'est une erreur qu'ils font, y compris, moi je dis, contre le peuple juif lui-même, c'est-à-dire...
La plupart, c'est des juifs marocains et ouais. Tunisiens.
Et tunisiens, voilà, qui sont pas, oui, qui sont en plus
des
gens...
Pas des séfarades. Hein.
Voilà, non, c'est pas, non, c'est des gens qui ont été importés.
Alors, ici à Marseille, d'ailleurs, le départ, c'était de Marseille.
Oui, c'est vrai, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de la création d'Israël, il y a eu toute cette propagande autour des kibbutz, la nouvelle société, le socialisme à l'israélienne et tout, et il y a un certain nombre de juifs qui n'étaient pas spécialement maltraités ni en Tunisie ni au Maroc, puisque en fait, les communautés juives vivaient en bonne intelligence, elles avaient leur quartier, il y avait des réserves. Enfin, on n'a jamais massacré de juifs au Maroc parce qu'ils étaient juifs, pas plus qu'en Tunisie. Bon. Et donc, à partir du moment où ils ont dit « Ah ben là-bas, c'est la liberté, c'est le socialisme à l'israélienne et tout », on y va. Et puis, on les a mis dans le moule et on leur a dit « Maintenant, c'est comme ça. Et les Arabes, ceux-là d'en face que vous regardez de l'autre côté du mur, là, ceux-là, on leur veut du mal. » Ce qu'ils n'avaient jamais fait, les juifs marocains, on leur disait pas, enfin ils n'ont jamais eu l'idée d'aller tuer les Arabes dans la rue. Hein. Mais on leur a mis cette idée dans la tête. On les a déformés à l'idée de ce régime qui pouvait ne faire que le bien puisqu'il était porté par les anciens, les survivants d'Auschwitz. Ce n'était pas vrai, parce que ni les parents de Netanyahou, ni les parents de... les dirigeants, les fondateurs du sionisme n'ont vécu la situation en Palestine. Ils ne la connaissaient pas. Hein. Les Herzog, le président de la République actuelle, les Weizmann et tout, aucun d'entre eux n'a été élevé sur la terre de Palestine avant l'indépendance d'Israël. Et donc ils ne savaient pas ce qu'ils étaient. Et donc ils ont transformé, plaqué des vues qu'ils avaient fabriquées à des milliers de kilomètres de ça, en Europe en particulier, où ils ont été, alors les juifs en Europe orientale surtout, ont été maltraités. Ils ont failli l'être en France, et la France, pas miraculeusement, mais ça a été quand même un débat très très profond dans la politique française, il a fallu l'affaire Dreyfus pour que finalement la France républicaine devienne correcte avec les juifs français. Mais ça a été très très tendant, il s'en est fallu de pas grand chose que la France bascule dans le mauvais côté. Le mauvais côté, c'était tout ce qui se passait à l'époque du Tsar, en Pologne, dans tous les pays d'Europe de l'Est et tout. Là, cette minorité était opprimée et décimée quand on pouvait le faire. La France a échappé à ça, la Grande-Bretagne aussi, pour d'autres raisons, parce que les Juifs étaient très puissants dans la finance et que ça rappelle la déclaration Balfour, puisqu'en fait, on sait que Balfour avait besoin de soutirer à Rothschild de l'argent pour finir la guerre de 14. Hein. Donc, il lui a dit, allez, je te signe un papier, tu vas te faire ton état juif, mais envoie la galette, envoie l'argent, hein, et je te laisse faire après.
Bah, rien n'est gratuit. Hein.
Ben exactement, rien n'est gratuit. Et l'autre a envoyé...
Ce qui se passe ici en Ukraine, rien n'est gratuit.
Mais oh là là. Alors en Ukraine, tu cites le mot, c'est incroyable. Zelensky est obligé de dire, il a été obligé de dire cette semaine, ben on a perdu 100 milliards de dollars dans les fonds qui nous ont été envoyés des États-Unis. Incroyable. Alors, il le dit, en fait, il doit le savoir, mais il ne peut pas le reconnaître, parce que c'est du brigandage, c'est du vol manifeste et tout. S'il dit, moi je sais à qui je l'ai donné, j'en ai pris une partie pour moi, le reste est ici et là et tout, il ne peut pas tenir longtemps. D'ailleurs, je pense qu'il ne va pas tenir longtemps. Mais là, il fait l'innocent. Oh, j'ai perdu 100 milliards de dollars, comme toi, tu as perdu une pièce
de... Je vois que sa gueule, elle commence à changer complètement.
Ah oui, je pense...
Sale gueule.
Oui, non, il est fini, je pense. Il est fini, parce que s'ils veulent négocier, comme les Russes ne veulent pas négocier avec lui, ils ont raison, ils ne veulent pas négocier avec un voyou, tu vois. On veut négocier avec un responsable d'un État qui tient à peu près debout, tu vois. Bon, donc, les États-Unis disent, si on veut négocier avant que les Russes aient tout pris, parce que c'est ça qui les inquiète, hein, il faut absolument lui mettre en face quelqu'un d'un peu présentable. Et ils cherchent, mais d'un peu présentable. Alors, il y aura peut-être, moi je ne désespère pas, on parle, il existe au moins des expressions, il y a des blogs, etc., tenus par des Ukrainiens, qui se disent expression de la résistance ukrainienne à Zelensky. Et c'est des gens qui disent, mais nous on n'a rien contre les Russes, simplement c'est dommage qu'ils aient été obligés de faire ça, mais ils n'ont pas décidé tout seuls, et donc on peut se réconcilier avec les Russes, mais pas lui évidemment, parce que lui il a été payé pour canarder les Russes, donc ça il le fait, c'est pour ça qu'il le fait même sur le territoire de la Russie, hein, avec Kursk et tout ce qu'il en reste, et il tire régulièrement, ici un dépôt de carburant, ici une usine, ils ont tiré sur un hôpital en Russie, hein. Bon, ça c'est des ordres de la Maison Blanche, ils ont cassé tout, hein. Mais je pense que ça n'a pas duré. Tu as effectivement observé qu'il a mauvaise mine, Zelensky. C'était aussi un clown, un autre clown, puisqu'on vit entouré de clowns. C'est un autre clown qui est en train de finir son séjour, parce qu'effectivement, s'il reste, de toute façon, le gros risque, je pense que c'est un risque militaro-politique, c'est-à-dire, s'il reste encore longtemps comme ça, bon, il fera encore un peu de casse en tirant des missiles quelque part sur une ville de Russie, mais en fait, il va tout perdre, c'est-à-dire, il n'y aura plus d'État ukrainien. Les Russes prendront tout, et sauf qu'ils laisseront peut-être un petit morceau. Alors il y a déjà, c'est assez amusant, il y a un colloque qui a été organisé avec des Hongrois, des Polonais, des Tchèques, des Slovaques et tout, en disant, mais avant qu'il y ait l'Ukraine, vous n'aviez pas un morceau de ce territoire qui était chez vous, qui était en Hongrie, qui était en Slovaquie et tout. Et ils disent, oui, on a eu des moments où l'Ukraine n'existait pas et où il y avait une partie de son territoire qui était chez nous. Donc ça, ces idées mûrissent, puisque après tout, il y a une minorité hongroise qui parle hongrois sur le territoire de l'Ukraine. On pourrait très bien se retrouver en Hongrie, on l'accueillait très bien, et pas rester avec ce gouvernement-là qui ne s'intéresse pas. Même chose pour la minorité slovaque. Bon. Donc cet État est en train de pourrir sur pied, et les États-Unis, enfin ceux qui savent, ceux qui réfléchissent, disent ben, « le temps est passé, on va... » Comment on s'en sort très vite? Parce que si on ne s'en sort pas très vite, il n'y aura qu'une capitulation possible. C'est ça que les États-Unis refusent, parce qu'un mandat de Trump qui s'achèverait sur une capitulation. Quand je parle de capitulation, je fais référence à mai 45 à Berlin. C'est-à-dire un gouvernement qui disparaît, qui n'existe plus. Qui n'existe plus. Et donc c'est ça la terreur des États-Unis. Parce qu'après le départ d'Afghanistan, ce n'était pas une capitulation, mais ça y ressemblait. Mais reconnaître qu'effectivement, il n'y a plus de gouvernement en Ukraine, et surtout pas de gouvernement qui obéit à Washington, c'est une capitulation. C'est l'échec total de l'Empire. Est-ce que l'Empire peut survivre à ça? Je ne sais pas. Ça dépendra du message que l'Empire, ou ceux qui se présentent comme tels, sont capables de donner au reste du monde. Est-ce que vous êtes civilisé? Qu'est-ce que vous apportez d'intelligent à l'humanité, à part le Coca-Cola, à parler hamburger? Est-ce que vous avez un message, comme on dit, civilisationnel? On verra, mais vous avez encore pas mal de progrès à faire dans ce sens. Ça, c'est mon opinion à moi, Bernard. Je pense qu'ils ont beaucoup, beaucoup de progrès. Ça n'enlève rien. Comme l'a dit le président Gustavo, le président Petro, a dit « J'aime bien les États-Unis, j'aime bien Arthur Miller, j'aime bien Martin Luther King. Maintenant, à part ça, ça ne m'intéresse pas trop les États-Unis. Ils ne m'apportent rien.
Voilà, » donc... C'est bizarre, 70 ans après l'Allemagne, refuse toujours de faire des relations, ils commencent à comprendre que les relations avec les Américains ne s'approchent pas. Déjà, ils ont boycotté les voitures électriques Oui. C'est l'Allemagne.
Tout à fait.
Non, c'est bizarre,
non.
Hein.
Non, non. Alors, l'Allemagne est très mal à l'aise parce qu'elle a mal digéré son passé nazi. Elle n'a pas fait une croix dessus, au point qu'elle a continué, alors armée, elle continue à soutenir manifestement Israël, enfin Netanyahou dans sa politique, en lui fournissant de l'armement, en refusant de signer quoi que ce soit à la Cour internationale de justice, etc. Bon, et donc en fait, l'Allemagne n'a pas digéré son nazisme. Et pourquoi elle ne l'a pas digéré ? Parce que les États-Unis n'ont pas voulu qu'elle le digère. Les États-Unis ont recyclé une bonne partie du personnel nazi dans leurs bénéfices propres, pour créer des services secrets. La CIA est une création d'un Allemand. C'est un Allemand qui était chef des services de police de Hitler qui a créé la CIA sur le modèle nazi. Une partie de la recherche scientifique touchant le militaire, je pense au domaine des fusées par exemple, a été créée par les Allemands, l'équipe de von Braun qui avait créé les V1 et les V2.
Les V6 et les V8.
Voilà, tout à fait. Et donc les États-Unis, au lieu de dire il faut casser le nazisme, qui était la politique des soviétiques, il faut casser le nazisme parce que le nazisme est dangereux pour la civilisation. Au contraire, ils ont recyclé tout et tout a été pardonné. Et l'Allemagne de l'Ouest a été fabriquée avec un encadrement, je pense ne serait-ce que le chancelier Adenauer, dont on a dit tant de bien. Le chancelier Adenauer était un ancien cadre du régime nazi. Et donc, il ne pouvait pas passer l'éponge. Il en était parti, il était complice. Et les seuls qui n'étaient pas complices, c'est ceux qui étaient restés en RDA, donc qui étaient restés anti-nazis et qui l'ont été jusqu'au bout. Mais on a réussi, l'affaiblissement soviétique, tout, enfin je ne refais pas cette histoire-là, mais une fois que la RDA s'est écroulée après le mur de Berlin, le courant nazi, pro-nazi, sans le dire, était dominant en Allemagne. Et il l'est encore. Quand on entend la ministre des Affaires étrangères allemande, Mme Baerbock, une ministre écologiste qui est un va-t-en-guerre comme aucun va-t-en-guerre dans aucun autre pays occidental, on se dit l'écologie à l'allemande, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Ça fait partie de la confusion politique de l'Allemagne contemporaine qui est liée à ce passé qu'elle n'a pas digéré. Alors, je me satisfais, je le dis, je l'analyse. Il faut aussi que nous nous rendions compte que la France n'a pas encore tout à fait bien digéré la décolonisation. Ça, c'est le danger qu'on a, nous, devant nous, pas très loin. Hein, il est, hein, c'est moins accentué. Mais on a encore ce danger-là, c'est-à-dire que ce qui reste de nostalgique de l'Algérie française, les procolonialistes, le Mayotte pour Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, tout cela sont porteurs d'une pensée raciste colonialiste qui est proche du pouvoir en France et que M. Macron ne s'en émeut pas particulièrement dès l'instant où on lui ferait croire à lui qu'il tirerait encore quelques ficelles. Non, on a ça devant nous pour la France. C'est moins grave, l'Allemagne, c'est clair, elle n'a pas liquidé son passé nazi. Nous, notre passé colonial, il est là. Alors, c'est pas la même génération, c'est deux générations après. Mais cet héritage a été entretenu par la famille Le Pen, par exemple, mais pas que, hein, par tous les anciens de l'OAS. Et cet héritage-là, il est lourd à porter et nous avons à nous en préoccuper, nous, quotidiennement. C'est tout à fait clair. L'islamophobie, ça ne vient pas de rien, ça vient de sentiments comme ça qui ont été entretenus. Il faut savoir, on ne le rappelle jamais assez, que les généraux français qui ont théorisé la lutte anticoloniale contre le FLN, hein, donc les colonels Godard et autres et tout, ont créé une école de pensée qui a servi à former tous les dictateurs latino-américains pendant les années 60-70, oui, la dictature militaire. C'est la pensée de la droite française, de la réaction française, du racisme français qui a armé intellectuellement les dictateurs latino-américains. Castelo Branco au Brésil, Videla en Argentine, tout ça, Pinochet bien entendu, tout ça est passé par la pensée coloniale française. Hein. Alors, ne nous réjouissons pas d'être, on se croit progressiste, on ne l'est pas tous. Hein. Et donc la France n'a pas liquidé sa maladie coloniale. Ça, c'est la tâche que nous avons devant nous. J'espère qu'elle est perçue par beaucoup de gens qui nous écoutent, mais c'est réel. Et on est assez près du basculement, il faut bien le savoir. Il y a beaucoup de gens qui se disent même en fait que Macron espérait que, à l'occasion des législatives du mois de juin, le RN serait majoritaire et que l'affaire serait pliée. C'est pas impossible, parce qu'il y a un sursaut in extremis qui a donné ce Parlement qui est ingérable pour l'instant, mais ce sursaut n'était qu'un sursaut. Il n'y a pas de majorité anticoloniale aujourd'hui en France capable d'exercer le pouvoir. Et c'est ça qu'il nous faudrait. Et il faudra bien que ça vienne. Que ce ne soient pas encore les nostalgiques ou les héritiers des nostalgiques de la colonie qui gouvernent ou qui soient influents. Voilà, quelques fois, on déborde toujours, on va un peu dans tous les sens, mais il faut essayer d'avoir une vision globale de la situation, et puis surtout de nous poser sous nous, en tant que citoyens français, quelles sont nos tâches immédiates. Alors, moi, je manifeste pour la Palestine, parce que je pense que la lutte des Palestiniens, elle est porteuse d'un fort sentiment anticolonial et anti-occidental en général, et que le gouvernement du pays où je vis et où je suis né, ce gouvernement n'est pas clair du tout. Il est même carrément à côté, il est dans l'erreur. Et donc, je me dis qu'il faut que je manifeste clairement mon soutien à ceux qui se luttent pour l'émancipation des peuples et pour la fin du colonialisme. C'est pour ça que je suis là. Et que je fais d'autres. Voilà. Quelques idées.
Merci Bernard pour ton analyse.
Merci, ben c'est avec plaisir. Et puis tu sais qu'au fil des semaines, ça évolue parce qu'il y a toujours de nouvelles informations. Mais on voit bien, enfin, les deux camps sont clairement en face. C'est-à-dire, on a un camp occidental qui est en crise intellectuelle, morale, parce qu'il y a trop de voyous. Quand on a c'est la première fois quand même dans l'histoire qu'un président de la République a un bracelet électronique. On n'a jamais vu ça. Bon, donc crise morale, crise intellectuelle, crise politique. La France va pas bien. La France va bien. Moi, je suis du côté de ceux qui aimeraient que la France a bien beaucoup de talent en France. Il y a beaucoup de choses sérieuses qui savent se faire, mais il ne faut pas qu'on soit gouverné par des voyous. Pas plus que les autres, nous comme un autre, mais on n'est pas à l'abri du tout de quoi que ce soit. Voilà, quelques idées.
Merci Bernard.
Je t'en prie, camarade.
Ma bolo ando popable, chemise y protège caillou cartable. Avec le costume je tape, chira ton gars et d'or. Et ma bolo y habe les boîtes, il fournit à l'iminette. Faut d'ar ando arma benette, chemise en jamais chauffou. Ah, ma hamma, je barak y barak, oui, il faut y harak, laisse me le matarak. Sénateur fil Hilton, cachemar zimple carton, room service ou téléphone, zawalia ou mechalso. Et ma bolo, hukuma, récité, va t'en zid, le man, agda va adbil umma, wahna bla misère, n'moutou, ah, ma, 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 ma,
Et oui, le retour de Baziz, le retour dans l'émission Haraga. Ça va chauffer dans un moment.
ما بولو عنده بحاير تاع كل شي حبط للتاير حتى كل شي ساير في قلب اللي فراهم سكنو كولتور رجع ارجع تيليفزيون راديو البهجة نرميهم في كاجا قاع يخلصو باش يدوزو هم هم توجور هم هم مازال هم هم توجور هم هم شعب ركدا وتمانجي ساكت ما يديرونجي الدار البولونجي الخبزة دابور قاع يقولوا تاع البول حياة بيب الموت صغر
نخدموا علينا دي قيود نستنى وقتهم يفوت رجعونا كعدي ما بلوا هما هما توجور شمشم مازال هما هما.
Vous savez bien qui sont ces coyotes? Ces coyotes en Algérie, c'est les militaires et leurs enfants. En dépit de grandes difficultés qui pèsent notamment sur notre grande partie de notre communauté en Algérie, où la persécution ou les libertés d'expression ou le fait de se connecter sur les réseaux sociaux rend une prise de risque, une position à une peine de prison ou à une arrestation politique. Et Al-Khawal Algérie dans une grande hiboussa. Fake news, désinformation, manipulation qui visent les Algériens et Algériennes et qui les embarquent dans un cycle de manipulation et le seul but est de détourner l'intention sur la vérité sur ce qui se passe en Algérie depuis longtemps. La crise entre la France et l'Algérie a profité à pas mal de diffuseurs de mensonges. La Estrana.
الطونوبيل قجم حفظ حبسات ترسد في المزيد الصيف هذا القد نوهم ذي الشغلي سيمي غد السقسا زيغن تاروميث توسد سفر نسات ناك تناذيغ أفلا فرن جيدا ناك تناذيغ أفلا فرن جيدا مارغريت 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 طاوس عمروش.
Hommage à Taous Marguerite par Lahlou, le chanteur engagé. Vous pouvez aller sur YouTube pour voir qui est Taous Amrouch. C'est une grande cantatrice qui a été interdite en Algérie. Pourquoi? Parce que c'est une famille chrétienne, kabyle.
مقفارث ولا شازكا ولا بث مقفارث ولا شازكا من مارغريت 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 طاوس عمروش محرور بث مقفارث فعك واستخنا مرد قريت زمار ثل الفاركة بك سار ثوها سني قلا كل ثناك ثكا وخام ذي ثلول ثراد النهدى ثجايا غدا الزول ثراد النهدى ثجايا غدا الزول فمارغريت مارغريت مارغريت طاوس عمروش سخاميس كل شي هلورا حزننا الحيوغيس الدفوفة ثعفلا الطلام ذو كريس يطفن في سورا أفوم سرويس رن في قورا أضربوني سميس ذوين ثورا أضربوني سميس ذوين ثورا أكو مارغريت 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 طاوس عمروش وهم غدا سفرو سقي غيل علي ما ذي زاري ويترو وغدي سواوي مخيران تسوم يزمون ترلين أخاز النهذوف ذغي غسم كثير يلموه بعمروش ثمال كواريك يلموه بعمروش ثمال كواريك مارغريت 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 طاوس عمروش مارغريت مارغريت مارغريت
طاوس عمروش.
همام بالكهرباء. على كل حال يعني نسمعوا الفيديو وشهادة تاعهم من الفوركون الخير.
للأسف
La vidéo appartient à Lotfi Double Canon. C'est un grand rappeur qui a été interdit en Algérie. Il est en exil et c'est lui qui commente cette vidéo. Des professeurs à Oran, c'est des professeurs ou qui était interdit, emprisonné, tapé. Enfin, je vous raconte pas l'enfer qu'ils ont vécu.
الأول أسدن ينتفضوا ضد الظلم، ضد الطغيان، ضد التسلط، ضد الاعتقالات، ضد الظلم من طرف الأجهزة الأمنية. هذا أمر خطير جدا.
النساء ضربوا.
هذا أمر خطير جدا.
الهواتف.
الأمر خطير جدا. أمر ليس يعمل قواعد إنها تجند. نضالنا مستمر. ما نيأسوش، ما نملوش، ناضلوا. ونستمر في نضالنا حتى نحقوا المطالب. سلمية.
في كل الولايات تقريبا عدت عادي سلمية، داروا وقفة، داروا النشيد الوطني، تكلموا على المطالب تاعهم، يعني عادي جدا. فهمتوا على هادم تم ضربهم وإهانتهم. هذا أستاذي خالتي، طبعا مش نحن ديفلوبي ونحكي الكلامباس، يعني دارت بيان استنكاري كتبت فيه: نعبر عن استنكارنا الشديد لما تعرض له زملائنا الأساتذة في وهران من تضييق وعنف واعتقال خلال وقفتهم الاحتجاجية السلمية، بدلا من الاستجابة للمطالب المشروعة للأساتذة الذين يضحون في خدمة التربية والتعليم. إن هذه الممارسات لن ترهبنا، نعم هذا ترهيب صح، بل تزيدنا إصرارا على النضال من أجل حقوقنا المشروعة وكرامة الأستاذ التي يحاول البعض طمسها بقوانين مجحفة وإجراءات تعسفية.
احنا هم وعي المجتمع، احنا مربي المجتمع، احنا اللي نصلحوا المجتمع.
Voilà, c'était des professeurs, hein, des professeurs qui se défendaient, qui demandaient d'être bien payés, qui demandaient, ils ne faisaient pas la politique. Donc ils les ont embarqués dans un panier à salade, frappés, et ils ont réussi à envoyer des messages, des secours, des SOS par téléphone. C'est pour ça que vous avez tout à l'heure entendu le téléphone sonner.
هذا مستوى منحط، لكن نضالنا مستمر. احنا اساتذه، احنا حضاريين، احنا مربين.
عيب يا خوتي، في 2025 في الجزائر الجديده يهان الاستاذ ويضرب الاستاذ ويعتقل الاستاذ ويسعق بالكهرباء طازر. عيب 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 عيب، اهانه صوره الجزائر.
اللي ماتراكي اللي تابي افيك دي تازور دي بروفيسور كي انسين نو انفون سا سباس اون الجيري.
من فضلكم ما تأجوش الوضع، هادم ناس سلميين، هادم ناس يطالبوا غير بحقوقهم، تجلس معاه في طاولة، هذا أستاذ تاع التربية، هذا أستاذ يربي الناس ويربي الأجيال، وانت تروح تضربه وتنتقله وتدير فيه كما هكا. طبعا نحكي وعلاها في وقتها يا خوتي، المهم ان شاء الله تكون سلامات وتضامننا المطلق مع الأساتذة الجزائريين.
لا سي عبدو سمار، سي نوت فيديو ان نوت جورناليست كي اكزيلي. Donc, il a été même agressé à Paris. C'est lui qui commente cette... Écoutez bien.
Surtout de psychiatre. Parce que nous savons, l'actualité algérienne vient d'atteindre un niveau de démence, un niveau de folie sans précédent. Et pour comprendre pourquoi je parle comme ça, je vous demande d'entendre, d'écouter attentivement le ministre de la Communication, qui aujourd'hui, le 11 février 2025, a pété les plombs, un ministre de la République, un ministre d'un pays de presque 50 millions d'habitants, un ministre d'un pays important comme l'Algérie, plus grand pays sur le plan géographique du continent africain, le plus vaste pays de tout le bassin méditerranéen, le plus vaste pays de tout le monde arabe, regardez comment il a, ce qu'il a dit aujourd'hui, comment il a pété les plombs, comment il a... Je ne sais pas si on peut parler de dérapage. Moi, je pense qu'il faut parler de pétage de plomb. Il a explosé. Je ne sais pas. Il a des problèmes de couple. Il a un problème familial. Il a un problème personnel. Il n'a pas pris son médicament. Il n'a pas mangé avant. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui a pris. Mais regardez ce que le ministre de la Communication est en train de nous dire en
2025. 9000 عبو يراقبون العالم وانتايا غير تظهر صورة الجزائر يا سكون ابل لو بريزم انفورماسيونيل هنا الدولة تدخل باش تدعم وسائل الإعلام التلفزيون الجزائري عليه أن يأخذ مكانته اللاغئة التي يستحقها الجزائر الدولية أيضا باش تكون عند يكون عندهم المحاولة ديالهم ويكون عندهم وكالة الأنباء الجزائرية أيضا عليها أن تحتل مكانتها وأن يكون لها مفيدين في الخارج مبعوثين أو مقيمين بصفة دائمة أكثر من 9000 صحفي عبر العالم يشوهون صورة الجزائر 9000 عبر يراقبون العالم وانتايا غير تظهر صورة الجزائر يا سكون ابل لو بريزم انفورماسيونيل هنا الدولة تدخل
voilà. Ça se passe de tout commentaire. Le ministre de la Communication de la République démocratique et populaire en algérienne fait croire à sa population. C'est une conférence organisée à l'université d'Alger 3 au niveau de la faculté des sciences, de l'information et de la communication de l'université d'Alger 3 en présence de tous les représentants des médias algériens. Et audiovisuel, électronique, classique, tout le monde, radiophonique, électronique, tout le monde était présent. Nous avons un ministre de la République, un membre du gouvernement, qui nous fait croire, qui fait croire à l'opinion publique, c'est-à-dire aux Algériennes et aux Algériens, qu'il y a dans le monde 9000 journalistes mobilisés pour salir l'Algérie. Alors, 9000 journalistes, regardez, même, réécoutez bien, même les gens qui étaient présents, bah. 9000, oh, 9000. Subhanallah al-Azim. Nous sommes dans la démence. On est dans au-delà du réel. On est dans le paranormal activity. C'est bon, ce n'est plus dans l'information. Ce monsieur est devenu fou. Comment tu peux affirmer devant les caméras de tout le pays, devant les journalistes de tout ton pays, devant des universitaires, devant des étudiants, une telle absurdité, mais une telle bêtise. 9000 journalistes mobilisés pour salir l'Algérie. 9000 journalistes dans le monde. Vous avez bien vu comment elle a décrit la scène. Ils sont assis devant leurs écrans. Dès qu'il y a l'image de l'Algérie, dès qu'il y a le drapeau de l'Algérie, ils attaquent l'Algérie. Ils sont mobilisés pour salir l'Algérie à travers le monde. 9000 journalistes. Sur quoi M. Mohamed Mezien s'est basé pour compter ces 9000? D'où est-ce qu'ils viennent ces 9000 journalistes? Et pourquoi ils attaqueraient l'Algérie uniquement? Mais c'est insensé, c'est irrationnel, c'est vraiment de la folie pure. Mais qu'est-ce que l'Algérie a fait pour pousser à d'autres pays ou d'autres institutions ou d'autres lobbies internationaux pour mobiliser 9000 journalistes? Mais c'est 90, 900, 9000, à une armée. C'est-à-dire qu'il y a une armée de journalistes contre nous. Vous vous rendez compte de la gravité, de l'irrationalité, de la démence? Est-ce que l'Algérie a l'arme nucléaire qui met la Corée du Nord et elle fait des essais nucléaires et elle fait des missiles balistiques et elle a un arsenal nucléaire? Non. Est-ce que l'Algérie a une intelligence artificielle avec laquelle elle concurrence les États-Unis d'Amérique ou la Chine ou la France ou Israël ou je sais pas quoi? Non. Est-ce que nous avons envoyé quelqu'un, des astronautes dans l'espace? Non. Est-ce qu'on a des voitures électriques d'une nouvelle génération qui menace Tesla ou les véhicules chinois ou les grands groupes européens? Non. Est-ce qu'on a fabriqué un TGV qui a battu tous les records pour susciter des jalousies, pour faire peur à toutes les autres nations du monde, à toutes les autres nations du monde? Non. Pourquoi nous, on ferait aussi peur aux gens, ou là aux autres, à l'humanité entière? D'ailleurs, je ne sais même pas, Wallah al-Adim, est-ce qu'il y a au moins 9000 journalistes étrangers qui parlent de l'Algérie? Est-ce qu'il y a au moins 9000 journalistes étrangers qui s'intéressent à l'Algérie? J'aimerais bien les voir. J'aimerais bien que M. Mohamed Mziane nous donne les secrets de son investigation. Comment il a pu découvrir qu'il y a 9700 journalistes, 9000 journalistes cool qui sont mobilisés pour salir l'Algérie. Et d'où ils travaillent, leur seul métier, c'est de salir l'Algérie. C'est-à-dire leur boulot, ils sont payés, ils sont rémunérés, ils sont recrutés juste pour salir l'image de l'Algérie. C'est incroyable. Il le dit avec conviction, il le dit avec intensité, il le dit, mais vraiment, le monsieur, il croit à ses paroles, on dirait un drogué. De la manière avec laquelle il parle, on dirait un ivrogne, on dirait un alcoolique. Ce n'est pas, il ne dispose pas de ses forces mentales. Il se remet même pas en cause, Galit Hak, Galbelek, c'est une blague, Galbelek, je ne sais pas quoi. Il est sûr de lui. Il vraiment, il parle avec beaucoup d'entrain, beaucoup d'énergie, comme si il était en train d'haranguer les foules. Je crois qu'il avait une exclusivité, il était sûr de lui, 9000. Mais où sont-ils ces 9000 journalistes? Où sont-ils? Non mais arrêtons de dire n'importe quoi. Arrêtons de raconter du n'importe quoi à notre population. On est en train de conditionner, en train de créer avec ces dirigeants algériens totalement irrationnels et fous. On est en train de créer une génération d'Algériennes et d'Algériens qui sont conditionnés à avoir peur de l'étranger, à détester l'étranger, à croire vraiment que les fake news sont des vérités, à croire que les plus gros mensonges sont des vérités. Plus c'est gros, plus c'est vrai. Voilà comment ça se passe avec le régime algérien. Le problème, c'est même pas c'est gros, plus c'est hyper gros, plus c'est immensément gros. Jusqu'à quand nous allons nager dans cet océan de débilité, d'absurdité, de bêtises? On n'est plus dans le mensonge. On n'est plus dans la manipulation. On est dans le foutage de gueule à l'échelle de l'humanité. On est dans l'insulte directe à l'intelligence. On insulte l'intelligence du peuple et de l'opinion publique internationale en affirmant de telles fake news. D'où viennent ces 9000 journalistes mobilisés contre l'Algérie? D'où vient-ils? D'où est-ce que vous avez ramené ce chiffre? Vous allez... Mais c'est aujourd'hui, le gouvernement algérien, on peut l'affirmer, est un asile. Est un asile qui regroupe les fous, les frustrés, les malades mentaux, les déséquilibrés, les personnes qui ont des doublements de personnalité, les mythomanes. C'est un asile. Pour moi, c'est un asile. Quand je vois les personnes comme les ministres algériens, ce qu'ils déclarent, ce qu'ils font publiquement, toute honte bue, sans prendre la précaution de contextualiser leurs propos, de nuancer leurs propos, de relativiser leurs propos, je m'inquiète. Je m'inquiète pour mon pays. Je le dis en toute honnêteté, j'ai peur pour mon pays. J'ai peur pour mon pays. La vérité, j'ai peur pour mon pays.
Musik, Aydir.
Da gibt es natürlich auch viele, viele Möglichkeiten. Heini, wer ist deines Erachtens wohl der beste Jodler der Welt?
Für mich?
Für uns alle?
C'est un mot qui nous vient de province.
et qui ne veut rien dire à Tulle ou Châteauroux, mais au cœur de Paris. Je connais quelques princes qui sont, selon les heures, archanges ou loups-garous. L'ivresse n'est jamais qu'un bonheur de rencontre. Ça dure une heure ou deux, ça vaut ce que ça vaut. Qu'il soit minuit passé ou 5 heures à ma montre, je ne sais plus monter que sur mes grands chevaux. Ivrogne, ça veut dire un peu de ma jeunesse, un peu de mes 30 ans, pour une île au trésor. Et c'est entre Pigalle et la rue des Abbesses que je ressuscitais quand j'étais ivre mort. J'avais dans le regard des feux inexplicables. Et je disais des mots 100 fois plus grands que moi. Je pouvais bien finir ma soirée sous la table. Ce naufrage, après tout, ne concernait que moi. Ivrogne, c'est un mot que ni les dictionnaires, ni les intellectuels, ni les gens du gratin ne comprendront jamais. C'est un mot de misère qui ressemble à de l'or à 5 heures du matin. Ivrogne, et pourquoi pas? Je connais 100 fois pire. Ceux qui ne boivent pas, qui baisent par hasard, qui sont moches en troupeau et qui n'ont rien à dire. Venez boire avec moi, on s'ennuiera plus tard.
Moi d'abord, présentez-vous, Kadmi Nefsek.
Voilà, Samia l'Algérie, Zahir, bien sûr. Krahat Seba, ma kayn walu, ma ataouna walu. J'ai travaillé anaya, khdem ma mari, la police, tabna, soufrina ma l'irhab, rahna, bitna fi les hôtels, khalina qashna, smahna fi kulch, mplasa lakhtha. ومن بعد فينالمون ما دارولنا ما عطاولنا والو 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 يمدوا لي زابارتمون يمدوهم معرفه ويمدوهم للنساء ويمدوهم تعرف كاش واحد يمدوه لها
ساميا كا اكسبتي دو تيمواني انسيان اوفيسيي دو بوليس الجي
انا عييت سكنت في لاكاف وراجلي كان خدام في كافينيا كان انسبكتور دو بوليس هذاك الوقت ومن بعد اطلع بشويه وانا كنت خدامه في السنترال وتعبنا جرينا تعبنا وكرينا بدراهمنا وعشنا بدراهمنا بروبوزاو لنا نسكنوا في لوتيل دو بوليس قلت لهم جامي دلافي نسكن في لوتيل دو بوليس نحيت من كرشي وكريت وسكنت وجامي طمعت في السوسيال ويكذب عليك اللي يقول لك انا دومونديت حاجه تاع السوسيال ني انا ني ولادي بدراهمي سكنت بدراهمي اكرهنا اون ماخ راجلي مسكين خرج لا روتريت يدي دوك الزوج دورو يعطيو له دوك الزوج دورو مسكين خرج ازماتيك في حاله باش نروحو لي بوست دو طرافاي لولادنا لازم نكونو نعرفو ناس ولازم باغ اكزومبل دارو انفورماسيون في لا دوان ايبا جيت نروح انا لا دوان نلقى يدخلو غير ولادهم ما تسمعش بها ميم با لانفورماسيون تاع لا دوان في الجيري يدخلو غير ولادهم في لا بوليس يدخلو غير ولادهم في كل بلاصه يدخلو ولازم تكون تعرف ان سوبيريور باش تدخل وليدك ولازم سوبيريور هذاك يدوموندي لك حوايج يدوموندي لك دي شوز لي ما تقدرش عليهم الحقرة في بلادنا الحقرة بلادنا الحقرة كرهنا منها أنا ماخ أنا جيت لهنا ما عنديش لي موايا لهنا جيت بدراهم قلال ما عنديش لهنا عرفت ناس في الإسبان أكياوني والحمد لله ولبس بيا في الإسبان الدولة الإسبانية استقبلتني ورحبت بيا وعاونتني عاونتني خلصتني عشت لبس بيا وأنا تانيك كي وليت عندي أبارتمون في الإسبان ماشي شريتها بصح كريتها نعاون الحراقه ما يعرفوني يجيو يصوني ولي مساكن نعطيهم ياكلوا نعطيهم يشربوا في رمضان نخبز ونعطي لهم الماكل نهبط لهم الشوربه نهبط لهم يترعدوا مساكن يترعدوا ميتين بالشر ميتين حوايجهم نغسلهم في لا ماشين لافي توتاج كاين دي جون كاين حتى ال 40 طون كاين مساكن في حتى ال 50 طون ماشي مزوجين وما عندهمش ميم با كواغط وراكدين في الزنقه يروحوا مساكن يروحوا لومباساد انا رحت معاهم لومباساد لبرشلونه نروحوا نشوفوا هذيك مدام لومباسادور نورا هي معروفه هاي معروفه ملي جات وقيله قريب عندها 10 سنين. كيفاش امباسادور نورمالمون عنده 5 ans ويبدلوه؟ كيفاش هادي تقعد فوق 5 ans؟ هادي راهي خلدت ما على بالها بحتى واحد. تدخل تقعد في البيرو تاع الفوق كليماتيزي والناس تبكي تحتها. الناس تبكي باغ اكزومبل لي ماروكان يموت لو باسبور يروح للبيلباو يخدم باسبورو يعطوا له باسبور تاع 5 ans. حنا مساكن كيروحوا يبكوا يعطيهم واحد الورقه وفيها تصويرته ويقول له هادي روح دير بها. ما يديروا بها لا بادرون لا حتى حاجه، ما يديروا بها والو، هادي ما يعاونوه ما والو، يروح يرقد في الزنقه وما يسرقش ما ياكلش. هادي يقولوا له ما عجبكش الحال ولي لبلادك. هو راهو جايب بالك راهو خاسر 40 مليون ولا اكثر في البوطي، ولا عاش ولا مات يلم مسكين واش عنده ويجي في هذاك لو بوطي ويلحق ما يلقى والو قدامه بيسك ما عندوش باسبور. نورمالمون يديروا لنا حل لي باسبور. درك زعما قال لك نديروا باسبور تاع سكور بعام، واش يدوموندي لك في الباسبور تاع العام؟
لي باسبور دورجونس.
دورجونس واش يدوموند؟ يقول لك لازم يكون عندك 3 سنين في اسبانيا وتكون عندك اون بادرون دو 3 ans. السيد منين يجيب البادرون هو ما عندوش باسبور؟ يروح
البادرون سي كوا ليكيفالون دو كوا؟
البادرون ليكيفالون تاع شهاده سكن، سي ايبرجمون، ويعيطوا لها شهاده سكن. حنا نعرفوها شهاده سكن، سي اون بادرون كي شغل ايبرجمون. ايبرجمون لازم يكون عندك النيميرو تاع بات بوستال، النيميرو لو نو البرينو تاعك فيها. هاي عندي هنا
ادريس بوستال بلس سوا ديزون لي دي اف ولا الكتريسيتي او
اي ولا نو 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 نو، فيها غير الكود بوستال تاعك وفيها بلي وقتاش دخلت وقتاش خرجت وراك بادرون هنا، راك ايبرجي لهنا. هذيك البادرون هذيك تولي عندك اسيستون سوسيال وتعاونك، تعطيك الدراهم، تعطيك 500 اورو، كي تكمل لي 3 زون يولي يعطوك فوق 900 ويقريوك ويديروا لك في لاكلاس، يديروا لك واحد يقريك وحدك، ان بروفيسور يقريك واحد باش يعلمك اللغه تاعهم الديالوج تاعهم، وتاكل وتشرب وراك راقد لباس عليك، ويعطيوك يديروا لك دي كورسو، يديروا لك دي كورسو هادو معناتها يديروا لك دي زانفورماسيون، دي زانفورماسيون الكتريسيتي الاخر باش بلي تاع يكون
دي فورماسيون بلوتو
من فورماسيون يمدوا لك انفورماسيون معناتها هادي يمدوا لك يعيطوا لها حنايا باسبانيا كورسو. كورسو لازم كورسو يكونوا عندك بليزيور كورسو في لا كويزين في الكتريسيتي بارتو بارتو، يعلموك كلش كلش ماسونري كلشي، ويعطيوك الديبلوم باش بلو تار كي تكمل 3 سنين تاعك عندك لو دروا دبر كونطرا دو ترافاي، طم درهم دراهمهم ودبر ان كونطرا دو ترافاي ودير بها كوارتك تاع لي 3 ans.
شهاب وطاق
البمال لكل تعصر عليها حصر بالعساكر ما دام حيالاتي ما يتأدى شي حدودها من قربان سامي باقي نور شمالا مع قرب حسكالاته ما بتناهد أشحال ما غدرنا كيسان ساقي باقي نور شمالا مع قرب حسكالاته ما بتناهد أشحال ما غدرنا كيسان
احنا المشكل تاعنا احنا يدومونديلك دومونديلك دومونديلك المحال تقول لك روح جيب العسل من مكه لازم تروح تمشي من ناحيه المكه باش تجيب العسل والعسل هذا كيفاش يجي لازم يكون عندك باسبور باش تقدر دير هذيك البادغون احنا ما عندناش راني نبكي عليهم لي جانب ساكن يبكي ويخيف يقطعوا لك قلبك يشك في الزنقه ميت بالشر كي تعطي له غير خبزه ياكلها هكذا كيتبان له عسل والله العظيم غير شتم نبكي عليهم انا والله غير دي فيه دو 20 طون انا نعرف وحده عطيت لها كاسكروت هذه المره هذه جاوا دوك صحاب يخدموا لي فيستا وانا نعرفين ماروكان خدمت معاهم كي عطيت لها داك الكاسكروت كليت وهكا سيغ وانا واقفه قسمت لي قلبي قاعده تخزر هكذا وحتى شافتني درت لها انا شاورما هكذا وعطيت لها بيسك انا نخدم معاهم نعاونهم كي يجيو لي فيستا هذوك نعاونهم يخلصوا توت لاني كاين توت لاني كاين كل مره يقول لك ويجي ويخدموا يحطوا صحاب لي فوا هذوك وكي تكون عندك شويه معرفه تعرف دي زالجيريان ولا هكذا دي ماروكا تخدم معاهم ندير لا كويزين تراديسيونيل زعما وكامل كوسكوس وكاع يخدموني زعما والله نعطي لهم ياكلوا والله واحد الطفله مسكينه عندها غير 19 وعندها طفله الدرك ما عندها ني باسبور هي وبنتها
كيفاش جات كومونت
جات في البوطي جات في البوطي في الفلوكه على سوفير
شفت عيني الجبال تيقربوا بلاد الشيح ونخلف السهلات غير وعد الله والقدرات وجبوا في جبيني راه سبق لي شيء نفات يوم مشيت في حواز البهجان هدبوا شفت عيني وريت فرق حمامات يا علي شوف جبال الغرب غيبوا جبال
شبا هربت وجات دير حياتها إبا راحت للامباسادور ما هدرتش معها مينبا ما تهدرش تطلع الفوق ما تحبطش أنا درناها فوطينا عليها باش تحبط تهدر معانا تقنعنا تقولنا بلي ولدي ما عندكمش حقوق ما عندكمش كدا ما عندكمش كدا هكذا تقول لك تقنعك بصح باش تطلع الفوق أنا لي أنا بالذات أنا طلعت ليها شفتها باش عاودت الباسبور تاعي استقبلتني بس قالوا لها مقلبة الدنيا عليك لتحتها استقبلتني وطلع معايا واحد خابطت هي بالذات ما تحشمش قالت له احبط حاوزته كي شغل راهو جاي يطلع اللي يخدموا تما مال تريتي تما لازم الدراهم باش يخدموا لك خدموا دي باسبور افيك دو لارجون اي دوموندي لك 3000 اورو باش يخدم لك الباسبور ديالك يا ترافيك دو باسبور ميم تاع العام لازم تكون تعطيهم الدراهم باش يخدموه لك الحراقه مساكن يلموا الدراهم يلموا يسرق يدبر راسه منين يجيب ويدي لهم الدراهم باش يخدم باسبورو ممنوع يقول لك لا ما كاش ما عندكش يقول لك ما كاش يقول لك روح ارقد برا براسك يبكم دي بالي
لي بريزون تما اسك يا بوكو دالجيريان بريزوني
سي ولا غير كاين سي بلا قطا كيسرقوا باش ياكلوا
اوبليجي
يسرق باش ياكل يسرق كيما هاد الطفله هادي تخاف مسكينه قالت لي قالوا لها مانيش عارفه دات تقاشر لبنتها قالت لك ما هي داتهم سي سيغ داتهم باش يحكمها لا سيكوريتي سيتو هي قالت لك ما ديتهمش طاحوا في القبه اي بان جات في دار شرع قال لها المال جاي اتونسيون في غاف قال نديو لك بنتك تقاشر باش تلبس من بنتها بردت وما عندها حد دروا في والو باسكو ما عندهاش باسبور ما عندهاش معاونه حنا البروبليم تاع الجزائري تاعنا سيك الحكام تاعنا الحكام يبدلوهم كامل الحكام يبدلوهم ويديروا لنا قانون تاع الباسبور كيما المغاربه يمدوا لنا لي با منسحقهم هم ليهم البلاد ياكلوها هم ليهم يديوا المال يديوا واش يحبوا يعطيونا دي باسبور اون طونك الجيريان يمدوا لهم دي باسبور باش يقدروا يعيشوا في الاوروب الاوروب قالت لنا انا رحت للبنكه باش نعاون واحد نفتح له كونت كوينتا باش نفتح له كوينتا ونعرف نعرف الخدامين اللي تما يهضروا اون فرونسي يفهموا عليا يحبوني يشوفوني هكا بيا وكاع يحبوني قالت لي مدام قالت لي جاتنا اون لوا ما نفتحوش لي زالجيريان كونت ما نعرف قالت لك جاتني اون نوت المراه راه كيفتحوا لهم باش يتعطيهم لاسيستونت لازم لهم يقول لك افتح لي كونتا باش نحط لك دراهم فيها تحط لك لي 500 يورو اي بان لي جاتني نوت سيرفيس جديده موتوا بالشر مساكن يلقطوا برا في الزبل وياكلوا يخدموا كاع الباسوره يتخابي في الباسوره يلقطوا بيسك عندنا دي سكوندا ما نحن عندنا حوانت ويبيعوا فيهم هذاك باش عايشين لي زالجيريان عايشين في الاسبان لي زالجيريان طونك البترول والخير اللي عندنا ومدينو انا نعرف بنات دي مينيسخ عندهم خدامات خمسه خدامات في الدار خمسه خدامات نسقسيت الخدامه تاعها قالت لي باللي رحت هكا عرضوني رحت عرس مع حبيبتي عند بنتها مديره اندغا وتفرق في الدراهم تاع 200 اندغا وحطتهم على راس بنتها ومنين جا هذه بنت مينيسخ ما القرايه ما تقراش منين جاها باش عندها خمسه خدامات مين تخلصهم خدامات تخلص حتى ل 500 خدامه واحده تقضي لها واحده تطبق لها القش واحده تطيب لها والله يا خاوتي والله سي لا فيغيتي وراس ولادي غير تابعيني ان فيلا في دلي ابراهيم كيما لوزين تاع الحليب انا رحت شفت بعيني ماشي قالوا لي كرهنا اونا ماخ ما نسحقوا والو حنا نسحقوا يشوفوا لنا يديروا لنا حل لي زيميغري تاعنا ميم لي زيميغري مساكن عايشين عيشه الكلاب عندك عايشين ما عايشينش عايشين سي دي زيميغري ديما يقولوا انا نهضر على الحراقه مساكن يعطوا لهم دي باسبور يمدوا له باسبور تاع العام بلا ما يقول له جيب لي بادرون تاع 3 سنين وكونترا دو ترافاي منين يجيبها هو لازم يعطوا له باسبور تاع العام ديرجونس معليش بصح ما يدومونديولوش هذا ما يدومونديولوش المحال يقولوا له سي بون يغلقوا هذيك لومباساد تاعنا وخلاص ما توليش عندنا امباساد هم دايرينها ليهم باش يخلصوهم باش يعيشوا على ظهرنا وخلاص هذه هي صافي بليزير ولا غير حاجه مليحه باش تعرف بلي حنا لي زالجيريان نتساندوا في كل بلاصه في كل بلاصه انا شفت مرا تما والبارح قطعت لي قلبي قالت لي عندي الكونسير يا اختي ما كاش كيفاش معاونه قالت لي ولادي قالت لي ما تحرقت عليهم قالت لي درت تاع خدمه ولادي ميتين بالشر قالت لي من بعد درت لهم فيزا وجبتهم وهنا ما عنديش حقوق قالوا لي ما نعطيوكش مات لها الباسبور بنتي وما عنديش كيفاش باش نعاود لها الباسبور باش ندخلها تقرا بنتها عندها 15 قالت لي طاطا كيفاش باش تشوفي لنا حل قلت لها بنتي انا ما عندي ما ندير قلت لها راني جايه حواسه برك راني في الاسبان والحمد لله راني في اسبان الدوله الاسبانيه خدمتني خدمت في الكاريطاس معاهم يخلصوني صافي عطاوني ان ديبلوم صافي بليزير يخصونا برك حنا عندنا لي زالجيريان يخصونا يعطونا دي باسبور برك ما نسحقوا منهم والو عندنا حق في الباسبور يعطونا باسبور ويخليونا ما يعاونونا بوالو ما نسحقوا منهم حتى حاجه وحنا ندبروا يسانا وحدنا وهاي ليهم الجزائر هاي ليهم الملايين هاي ليهم كلش ما نسحقوا والو منها قولوها الجزائر راهي ليكم هادي يا خويا انا نحب لي جون مساكن اللي تحرقوا يماهم وتحرقوا عليهم الكلبات تاعهم ولي مرميين ولي ماتوا في البحور ولي جاوا سفره وجاوا انا واحد قال لي عطاوني العصا في ليبيا حتى شبعت باش لحقت لهنا قال لي حرقت على تونس قال لي وتونس ركبت على ليبيا قال لي ويسبوا فينا ويضربوا فينا الليبيين قال لي ومزيوا بدراهمو باش حكم واحد الباطو وهبط في الطليان ومن الطليان دخل لاسبان وما عندوش واش ياكل في الاسبان جبت له انا حوايج من الكاريطاس باش يلبس وباش ياكل يسوني لي في الباب يقول لي طاطا وين نطلع ندوش نخليه يدوش تالمون موسخ ونغسل له حوايجو في لا ماشين لافي غادني مسكين ان جون دو 19 ما عندوش حق هما قل من 18 يدخلوهم في البرقي ويديروا لهم كوارد بصح فوق 18 يقولوا دبر راسك في الاسبان، يقول لك لازم لك باسبور باش تقدر تعيش في الاسبان.
دونك يا بوكو جون كي في ميم في بوندون الحراك هذايا pendant tout ce mouvement qui se déroule en Algérie, les jeunes ils continuent à quitter le pays.
Ah, ils continuent à quitter le pays, ça, c'est vrai. Mazal, ami djoub l'aloufet, ami djoub من كل بلاصة, من كل بلاصة. من المغرب, يطلعوا على المغرب, يطلعوا على... راهم في الحبس على المغرب. ولادنا راهم في الحبس على المغرب. يحكموهم المغاربة, يدخلوهم للحبس. يقولوا ما جيتوا ديروا لهنا. يقول لك احنا خاوة, انا جامي. هذه ما كاش منها هذه ولا غير ولادنا راهم في الحبس على تونس. تونس الاخرى اللي يتحبنا. غلقت علينا الحدود المرة هذه. يبكوا وما بيسكي يروحوا يحرقوا عليها. درك غلقت عليهم الحدود والدراري مساكن مرميين في برا في القالة. ما عندهمش دراهم قاعدين هكذاك للشر. الله يهديهم هذا الحكام هذو, ونتمنى ان شاء الله بليتاغ نتمنى يشوفوا لولادنا هذو اللي في راهم في الخارج باختو ومرميين في الالمان في اسبانيا في فرنسا, راهم دون لو موند اونتي راهم مرميين. مسكين واحد درك راهو مرمي في لاغريس, راهو في الحبس في لاغريس. ان جون دو 20 ans جا مسكين قال لي طاطا نلحقك ما قدر, قال لي جوني مار ما قدرش ما كاش خدمه في الجزائر, قاري لاباس به. جا مسكين قطع على 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 على, على الترك ودخل لاغريس. اي بان واش داروا له؟ ما دار حتى حاجه. قالوا له بلي سرقت ولا لا ملاكام كان يتصور ولد صغير عمره ما توشى حاجه في الجزائر ما يسرقش, يسرق في لاغريس وجاب دراهمه. فوالا راهو في الحبس حكموا له. دركا قال لي لازم نخدم في الحبس باش نخرج. ناف موا كثر حكموا له وقيله 5 سنين وكي يخدم فيها يحرطوا عليهم يوليو في وحب ولادنا راهم في لاغريس راهم في الحبس بوغ ريان ديتو حاجه ما دارها.
ربي ما يخليك أقوله لأمي ما تبكيش ولدك ربي ما يخليك
Voilà, il est 17h47 sur les ondes de Radio Galero 88.40. Donc, c'était un témoignage poignant, un témoignage émouvant, un témoignage... Dommage, c'était en arabe, mais bon, c'est une dame qui a quitté le pays. Ce reportage a été réalisé en 2022. Donc, c'est une rediffusion. Comme ça, vous... C'est pas loin, hein, donc ce qui se passe en 2022 ou en 1999 ou en 2020, c'est la même chose, rien n'a changé, ça s'est aggravé. Donc elle a fait un témoignage, c'est une ancienne flic en Algérie qui a vécu l'horreur. Elle a lâché ses enfants, elle est revenue en France, de France, elle est partie en Espagne. Et en Espagne, elle a créé sa petite association pour aider ces clandestins algériens qui fuient aussi. Elle raconte leur douleur, leur voilà. Donc, comme elle est une maman, c'est une maman, donc elle a plus le cœur qu'un homme. Alors, il faut reconnaître, une maman, c'est une maman, hein, c'est comme c'est ses enfants. Donc voilà, c'était ce témoignage. Et c'est lent. C'est dommage. Et ce qui concerne les autres vidéos, plutôt les autres reportages que j'ai passés, l'autre fille double canon et Abdou Samar, faute de journalistes en Algérie qui n'informent personne, qui ne disent rien du tout, qui sont soumis à... mais vraiment comme une serpillière, des grèves partout en Algérie, des grèves partout dans tous les domaines, hein. Ils disent rien du tout. Il y a la grève en Algérie des médecins, ils nous parlent du Maroc, il y a une grève du Maroc des médecins. Il y a une grève des travailleurs à Annaba, ils nous parlent des travailleurs en Tunisie. Il n'y a plus de journalisme en Algérie, c'est pour ça. Heureusement qu'il y a ces youtubeurs et c'est des journalistes, hein. Abdou Samar, c'était un journaliste exilé. L'autre fille double canon, c'est un rappeur à texte, essayer de chercher ses chansons, c'est quelqu'un qui dérangeait le pays. Il est exilé, interdit d'aller en Algérie. Et donc, faute d'informations d'Algérie, qui ne disent rien du tout, et le pays il est complètement à plat ventre, bouffé par la Corée du Nord du Maghreb et l'Algérie, voilà, on appelle la Corée du Nord du Maghreb, Voilà, voilà ce que j'ai à vous dire. Il y aura d'autres, qui m'a dit le mazal khair gdam. Il y aura d'autres fruits et légumes qui arrivent bientôt le jeudi prochain. Et on va voir si ce pays s'arrange ou s'arrange pas de pire en pire. Il part de pire en pire. Il y a une crise incroyable. Il y a du vol, il y a des corrupteurs, il y a de tout. Donc voilà. Donc, je vous dis au revoir et à jeudi. Je vous laisse vous reposer avec notre Gerouabi, notre Rossignol aussi. Et je vous dis à jeudi prochain. Artim Lili, ciao, ciao, ciao. Kawa la khair.
عيت نسقسي ساكنين الحافات يا مدرادو كل بهجة فاش غيبو زينة طامو الشايعة على البنات كي خرجوا يوم الجمعة يحاربوا نحكيهم غزلان درجوا في جنبات يا علي شوف جبال الغرب وجبال الصحراء نبا وغير العظمات لا الأقمال كمالي لا الأموي صغرى لله كي خرجوا يوم الجمعة يحاربوا نحكيهم غزلان درجوا في جنبات وقفوا قريب قبالي باش يلعبوا حبي ليهم فنا وديد العضرات بقيت ساهي فاهي من ديري مصايبه وانا راسي كي ساعة في الجياد والبنات كعرايس من شلا وعدبه غرامهم قوى من عر اللي عاد غرامهم لو طح على الجبل يريبه البحر مواجه تريع بعد الساعات يا علي شوف جبال الغرب غيبه لا لا مالك مالي لا لا موي الزورة لله غرمهم لو طح الجبل يريبو البحر مواجه تريع بعد الساعات الرياض المتنعم كي حطمو يخلف تربته في جدبات والفقيه لو دقوا كي يحدبوا يتلفلوا كل ما قراب التابات شحال فاتوا مولوك ما قدروا يحاربوا كيما عنطر فيه واشي عبلات العبسي والشاعر مروان كتبوا كذلك قيس فيه والي لمات يا علي شوف جبال جبال لا لا مالك ما بي لا لا موي الزورة لله الحب ممجور حكمه يناسبه ما يرحم عشيق طاغي يا سادات قصدي بالعربية يقصبه يمنهم لوع بالزهو والفرجات